La bande du jeudi.
La bande du jeudi.
Ce n'est pas encore un long fleuve tranquille, mais ça va mieux au HC Ajoie. L'équipe jurassienne a remporté deux de ses quatre derniers matchs et se rapproche ainsi de ses concurrents directs au classement avant de défier l'un d'eux, Ambry, ce vendredi à Porrentruy. Le HCA aura ensuite tout le temps d'analyser cette première partie de championnat puisqu'il disposera de plus de 10 jours de pause. Trêve internationale oblige. Aujourd'hui, nous reviendrons sur les dernières sorties à Joulotte. Nous évoquerons aussi le cas Frédéric Gauthier qui arrive en fin de contrat et nous nous projetterons sur le choc de bas de tableau contre les Levantins. Pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'accueillir le défenseur à Joulot, Valentin Pilet.
La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de la bande du jeudi. Salut Yann, salut Rafi.
Salut Michel.
Salut tout le monde.
On a davantage le sourire qu'il y a deux semaines avec ces six points récoltés là en peu de temps.
On est un petit peu moins crispé là, puis on est même venu aujourd'hui avec un grand sourire et puis un peu plus décontracté, je vais y arriver, ouais, d'habitude.
On se dit qu'on n'est pas obligé de descendre Valentin Pilet tout de suite ce soir, donc on est un peu plus content.
Valentin, la banane aussi après cette belle victoire à Berne notamment.
Ouais, c'est clair, elle fait du bien. Elle fait du bien. On a trouvé, c'était peut-être pas notre meilleur match, mais on a trouvé une manière de gagner et je pense que c'est ça qui est le plus important. Ouais.
Maintenant, il faut trouver un moyen d'enchaîner, c'est un peu ça?
Complètement, ouais. Maintenant, c'est pas tout de gagner qu'un match et puis d'en perdre droit derrière. Là, ce serait top, en tout cas, juste avant la pause nationale, d'enchaîner deux matchs, ouais.
La bande du jeudi.
Valentin, on va tout de suite évacuer la question qui fâche. Hein. On s'est croisés vendredi soir après le match face à Davos dans le couloir du deuxième étage. Je me suis dit, j'en parle pas. Et c'est toi qui as tout de suite évoqué cette occasion manquée du deuxième tiers quand tu avais la cage vide face à toi. Ça c'est de l'autre matière, hein, Valentin. Là. Tu en avais un petit peu gros sur la patate, là. Raconte-nous comment on peut rater cette montagne.
Franchement, est-ce qu'on peut louper? Apparemment, oui, mais j'ai mon neveu qui a 2 ans, qui a commencé le hockey. Je pense que même lui, il l'aurait mise. Donc, non, je sais pas, c'est vraiment hyper frustrant. Franchement, surtout que, voilà, je sais que je suis pas un joueur qui est là pour ça, mais là, j'ai une grosse occasion et je la manque. Donc, c'est sûr que c'est hyper... hyper frustrant, mais surtout qu'après on perd le match, donc c'est d'autant plus frustrant, mais voilà, après ça fait partie aussi du sport, du hockey, faut pas trop rester là-dessus, effacer ça de ma mémoire et puis essayer de mettre de la prochaine occasion, je la mettrai dedans.
Mais ouais. Là-dessus, tu te retrouves justement devant le but. Je trouve que ces derniers matchs, t'es souvent en attaque. Peut-être que je brûle ta présentation, Rafi.
Non, vas-y, c'était ma question qui suivait, mais je suis content que tu la poses aussi.
Mais c'est vrai que on te retrouve beaucoup plus en attaque ces derniers temps. C'est une volonté de l'entraîneur.
On est un peu plus libre aussi avec ce coach-là qu'auparavant. Donc, c'est aussi. Là, c'était sur un set play à l'engagement. C'était ce qu'on avait décidé avant même qu'il lâche le puck. Donc, je devais me retrouver là et puis voilà, j'ai pas fini le... Désolé Johnny pour l'assist, mais du coup, ouais, j'aurais dû finir le travail, mais je l'ai pas fait. Mais c'était en tout cas un jeu qu'on avait préparé, ouais.
Bon, je vais rebondir un petit peu plus globalement, là. Il se passe quoi au HC Ajoie depuis, on va dire, 10 jours? Parce que les résultats, bon, il y a ces deux victoires, et l'attitude peut-être même sont un petit peu meilleures, on va dire ça. Vous le sentez aussi, j'imagine, dans l'équipe.
Ouais, bah bien sûr. Après, c'est sûr que... Des fois, de l'extérieur, on paraissait un peu peut-être dépité. C'est aussi ça peut-être qui énervait des fois, je pense, le public et tout le monde. Ce que je comprends à 100%, mais c'est clair que quand on enchaînait les défaites, et puis il y a des matchs où, j'ose le dire, je pense qu'on faisait des bons matchs de temps en temps. Et c'est vrai que c'était super frustrant. Et maintenant, on a réussi à avoir cette deuxième victoire contre Longno. Et ensuite, maintenant, on est sur... peut-être retrouver un peu aussi les bases de notre hockey, de notre identité. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça va mieux.
Je ne sais pas si j'ose faire le rapprochement, mais depuis 4 matchs, Ajoie encaisse plus de buts, mais en marque aussi plus. Et puis ça donne 2 victoires. Est-ce qu'il y a corrélation? Est-ce qu'il y a un changement de ce côté-là?
Non, je pense pas. Je pense quand même qu'il faut qu'on fasse gaffe sur les buts encaissés. Parce que justement, tous ces matchs où on perdait, on prenait entre 1 et peut-être 3 goals par match. Et si on arrive à garder cette moyenne, je pense que ça peut être intéressant. Et maintenant, il faut continuer de marquer comme on l'a fait ces derniers temps. Ouais.
Mais pour revenir sur ce que dit Rafi, on a entendu aussi beaucoup de gens dans le public, les experts du hockey aussi, qui se disaient qu'on... pour reprendre des termes un peu polis, on s'ennuyait parfois quand dans le HCA et son jeu défensif. Il y a eu beaucoup de remarques avec ça. Ça a été remis en cause au bout d'un moment. Vous vous êtes dit, vous avez discuté entre vous avec le staff peut-être pour adapter un petit peu ça. Et c'est peut-être le fruit de cette réflexion qui est prouvée aujourd'hui avec ces dernières sorties.
Honnêtement, je pense pas, parce que le système, on l'a pas changé. Hein. Le système, c'est le même. On a les mêmes directives. C'est juste qu'il nous manquait souvent ce petit étincelle, ce dernier geste, ouais, comme vendredi dernier. Et c'est vraiment ces petits derniers gestes qui nous manquaient, qui auraient pu aussi changer toute la dynamique des matchs et justement du fait que peut-être qu'on s'ennuierait peut-être un peu moins.
Ouais, tu parles de la dynamique des matchs. Il y a cette partie de mardi soir à Berne où vous êtes rattrapé deux fois par Berne justement, et vous arrivez à chaque fois à repasser devant. Là, c'est quelque chose de nouveau aussi. Hein. Enfin, vous avez trouvé ce chemin de garder la tête.
Ouais, c'est ce que je disais à Michel avant. On n'a peut-être pas fait notre meilleur match à Berne, mais on a au moins trouvé une manière de gagner. Et je pense qu'on a été plus complet et plus solide contre Davos, mais au final, on a fait 0 points. Donc le plus important, c'est finalement d'avoir ces victoires. Et du coup, on est content comme ça. Ouais.
Le fait que vous jouiez maintenant depuis quelques matchs à 6 défenseurs, ça change quoi? Est-ce que toi, c'est une configuration que tu aimes bien? Certains joueurs disent on a plus de rythme, c'est peut-être plus agréable. Comment vous supportez le fait d'être à 6 derrière?
Ouais, alors je pense que, à mon avis, la plupart des défenseurs diront pareil. C'est quand même plus facile à 6 parce que justement, il y a ce rythme. On n'a pas le temps de réfléchir. Même si tu fais une petite erreur, tu es directement sur la glace, disons 1 minute 30 après. Donc, il n'y a pas le temps de réfléchir, ça s'enchaîne. Et c'est vrai que le rythme est beaucoup plus soutenu. Et c'est, en tout cas, pour ma part, je trouve plus facile de jouer. Après, c'est sûr, sur la longueur physiquement, je ne suis pas sûr si on pourra tenir toute une saison à 6, mais en tout cas, pour le moment, c'est en tout cas, je trouve plus facile. Ouais.
Typiquement, la semaine passée, vous avez enchaîné 3 matchs en 4 jours. Ça a été physiquement difficile. Tu étais sur les rotules le vendredi soir?
Bah, du coup, le jeudi, on a joué à 7. Du coup, ça a donné un peu, je crois que c'était le but aussi du staff, de donner un peu plus de fraîcheur en défense. Et du coup, non, je me suis pas, bien sûr que le week-end, il y a un peu des petits bobos par-ci par-là, mais pour ma part, en tout cas, je me sentais pas plus fatigué que ça.
Défensivement, tu estimes que le système qui est en place, il tient bon, et pour toi, c'est quoi la patte? Et puis cette méthode Ireland, tu peux un petit peu nous expliquer, et puis est-ce qu'elle a évolué sur ces 2-3 derniers matchs?
Ouais, bah, je pense que défensivement, si on joue notre système, franchement, on l'a vu hein, sur les matchs où on joue bien défensivement, on prend pas beaucoup de goals. Et j'ai un peu l'impression que les goals qu'on prend, c'est un peu tout le temps les mêmes, sur des erreurs un peu qu'on en parle tout le temps, on les rade à la vidéo. Et il faut qu'on se le mette un peu dans le crâne, si j'ose dire, pour qu'on arrête de prendre ces goals un peu stupides. Et après voilà, c'est aussi un peu l'identité de Greg Ireland, c'est aussi tout le temps travailler très dur, bloquer des shoots, jouer physique, et puis je pense que c'est quelque chose qu'il apprécie et qu'il demande en tout cas à tous ses joueurs.
Cette dernière place au classement là, elle est rédhibitoire, ou bien t'as l'impression que vous avez quand même encore les moyens d'aller chercher plus haut?
Non, clairement pas, non, on est quoi, fin octobre, donc on a même pas eu la première pause nationale. On est, alors oui, on est à quoi, 9 points, je crois, d'Ambry, et puis on joue en plus contre ce vendredi, donc la saison est encore très longue. C'est sûr qu'on n'est pas du tout là où on espérait être, mais ma foi, c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière. Mais je pense que la saison est encore très longue, on a encore énormément de matchs, donc il faut juste que maintenant qu'on oublie un peu ça, qu'on prenne des leçons de ces matchs, et puis qu'on aille de l'avant.
Personnellement, on va parler un peu de ton début de saison. Tu le vois comment, ton début de saison? T'es satisfait pour l'instant de tes performances?
C'est difficile à dire, surtout après un début de saison pareil. Mais oui, défensivement, voilà, j'essaie de faire mon travail. Offensivement, j'aimerais bien un peu plus apporté, même si c'est pas, je sais que c'est pas mon rôle, mais typiquement les occasions, je reviens encore sur vendredi, mais c'est ces occasions que je peux pas louper. Et si justement j'arrive un peu à amener ce côté un peu plus offensif, je pense que je serai un peu plus complet en tout cas.
Les coachs te le demandent, c'est ça, c'est...
Non, alors non, offensivement
oui.
Non, non, ils ne me le demandent pas. Non, parce que justement, c'est pas... On a des joueurs comme Berthou, Anka, comme ça en défense, qui sont vraiment destinés un peu à l'offensive. Moi, pas, mais c'est plus personnellement, enfin, c'est toujours aussi déjà agréable. Et si je peux en plus encore aider un peu l'équipe un peu plus dans ce sens-là, ça serait avec grand plaisir.
Au niveau du répondant physique, parce que t'es quand même le joueur du HC Ajoie qui montre le plus cet argument-là, c'est aussi quelque chose qu'on te demande là de le montrer, c'est ça?
Ouais, complètement, bien sûr. Ouais, c'est je pense que c'est aussi pour ça que je suis dans l'équipe, qu'on m'a signé, c'est pour avoir un peu cette prestance physique et puis presque faire un peu peur aux adversaires devant le goal, pas... Ouais, que les adversaires se disent ouf, je vais pas aller devant la cage parce que il y a des gros défenseurs et j'ai pas envie de me faire mal.
Ouais, mais moi je trouve justement que c'est vrai que c'est ton rôle premier, hein. Voilà, on aime voir Valentin défendre le gardien, être là pour se faire respecter. Mais c'est vrai que je le disais avant, je sais pas, dans la lignée de c'est pas pareil que Onka et puis Berthou, mais on te sent beaucoup plus offensif. Souvent on te voit aller forechecker, aller pincher, aller chercher les pucks beaucoup plus haut. Puis je trouve que c'est dans ce moment-là qu'on a le HC Ajoie qui est le plus compétitif. C'est quand les défenseurs appuient l'attaque, appuient le forechecking, plutôt que vraiment reculer. Et puis, je trouve qu'il y a eu un vrai progrès dans le jeu de Valentin Pilet parce qu'on le voit vraiment plus appuyer l'attaque avant peut-être les consignes, aussi peut-être la confiance dans le jeu, fait qu'on reste plus derrière. Mais là, c'est dans le hockey moderne, on doit être 5 devant, 5 derrière. Donc, aller plus en attaque, vraiment, c'est ce qui aide le HAJ, je trouve.
Ouais, non, c'est clair. Après, comme tu l'as dit, il y a pas mal la confiance aussi, la confiance du coach aussi. Je sais que maintenant, si une fois je me loupe sur un pinch, alors bien sûr qu'il va me dire quelque chose, mais il va pas non plus me hurler dessus et puis alors peut-être que les autres années suivant quel coach on avait ça aurait pu être le cas et du coup il y a peut-être aussi cette question de confiance qui se dit une fois que tu sais que t'as la confiance du coach et tout c'est quand même beaucoup plus facile et tu joues beaucoup plus libéré aussi ouais.
Puis maintenant t'as quand même enchaîné les années de National League donc aussi l'expérience elle est là et puis ouais, t'as plus confiance en tes capacités également.
Ouais, complètement. Non, non, c'est sûr, c'est une bonne analyse et voilà quoi. J'espère que en tout cas ça peut continuer comme ça et j'espère encore m'améliorer.
J'ai rebondi un peu là-dessus parce que t'étais habitué aussi à jouer avec Thomas Thierry et c'est une question d'auditeur, hein, Léo de Courcelon qui nous demande la vie sans Thierry, elle est comment pour Valentin Pilet?
Dur, très dur son Titi. Non, non, voilà, c'est malheureusement le sport, il y a les blessures donc c'est. C'est toujours quelque chose de compliqué. Là, je sais que c'est pas facile, en tout cas pour lui, parce que tu vois les copains jouer, les coéquipiers, t'as envie d'aider, t'as envie d'être sur la glace. Mais ouais, ça fait malheureusement partie, surtout en tout cas dans le hockey, c'est quand même en plus assez fréquent. Mais voilà, après, là, je joue avec Bast, avec qui je m'entends vraiment très bien aussi. Donc voilà.
Il ouais, faut pas oublier que le HC Ajoie a commencé la saison sans Thierry, sans Kevin Fay. Maintenant, on a quand même Gaël Chris qui est également sur la touche. Voilà, quoi, vous êtes vraiment mis sous pression hein, derrière. Hein. C'est une évidence. Là.
Ouais, c'est sûr qu'on est. Il y a pas mal de blessés. Quoi, donc voilà, mais là, je pense qu'on arrive gentiment au bout. Et, tous les joueurs vont gentiment revenir. Donc, tout ça sera derrière. Quoi.
Puis le positif de cette situation, c'est que, comme tu l'as dit, on a trouvé un peu des paires de défense qui sont assez complémentaires, qui vont bien ensemble. On a Onka qui tire Berthou vers l'attaque, on a Fichy qui donne tout sur la glace à chaque match et puis qui prend Nussbaumer avec lui. Et puis on a votre ligne avec Bastien aussi que Bastien, différence de taille entre les deux, mais dans les contacts physiques, je trouve que l'impact physique il est vraiment assez important de la part de votre ligne et puis. On a trouvé les blessures ont fait que typiquement Bastien il a dû prendre des responsabilités et puis il joue plutôt bien je trouve moi.
Ouais, clairement je suis entièrement d'accord et en plus d'être jouer ensemble on est vraiment potes aussi dans la vie de tous les jours donc je trouve que c'est aussi quelque chose qui aide vraiment sur la glace d'avoir l'alchimie on ose se dire les choses s'il y a un truc qui va pas et on se tire les deux vers le haut donc c'est cool ouais.
J'avais encore une dernière question, j'ose, ou bien on est dans le timing.
Allons-y,
du,
allons-y.
Pas de Michel, hein, je t'écoute.
Pas de souci, le maître du temps, pas de problème.
Ben voilà, quoi. Est-ce que tu as l'impression, depuis maintenant, tu en as dit, hein, ça fait quelques années que tu es en National League, que tu t'es fait une réputation. Alors, voilà, ben, je sais pas si on va parler de mauvaise réputation, là, mais depuis que tu as notamment croisé le fer avec certains joueurs du LHC, Bayreuther et Suomela, est-ce que tu as cette impression-là qu'on t'a catalogué dans ce secteur-là des joueurs?
Oui, alors certainement, peut-être pas tout le monde, mais après de nouveau, ça fait aussi partie du sport. C'est aussi un sport qui est vraiment médiatisé. Il y a maintenant en plus les réseaux sociaux qui ajoutent encore tout ça. Donc oui, c'est sûr que j'ai un peu l'image du méchant joueur et tout, mais au final, moi ça me va. Je sais que je suis un peu là aussi pour ça. Je sais que c'est aussi mon rôle. Et puis voilà, les gens après, ils peuvent penser un peu ce qu'ils veulent, mais... Moi, je sais que c'est mon rôle et c'est ce qu'on me demande de faire, donc j'ai pas de souci avec ça.
Alors que c'est absolument pas la personnalité de Valentin Pilet hors la glace.
C'est vrai.
On est là pour l'appuyer.
Ouais, mais moi j'ai connu ça au début de ma carrière. Hein. C'est vrai que des fois, nous, ce qu'on veut comme joueur, c'est jouer. Hein. Peu importe le rôle qu'on nous donne, c'est jouer. Et puis, je me souviens d'un entraîneur qui me disait, tu fais le flipper, le pinball machine, tu vas sur la glace, tu frappes tout ce qui bouge. Tu reviens au banc, puis t'es content. Voilà, on prend le rôle qu'on nous donne, et puis peu importe, il n'y a pas de bon et mauvais rôle, il faut de tout dans une équipe. Et puis, avec Thierry, c'était deux grands gabarits avec Valentin derrière. Puis, c'était quelque part évident qu'on allait donner ce rôle-là. Mais comme j'ai dit avant, il a ce rôle-là, mais il s'étoffe de plus en plus avec des prestations de plus en plus abouties sur la glace.
Le débrief.
On va donc passer aux récompenses, si on peut dire ça comme ça, de ces dernières sorties du HCA Joie. À défaut d'être parfait, hein, le HCA va mieux. Hein. Dernièrement, grosse production offensive contre Davos. Peu de tirs à Berne, mais des incursions vraiment dangereuses avec des idées. C'est ce qui avait parfois aussi manqué. Et puis niveau comptable, hein, rien de parfait non plus, évidemment. Mais deux victoires en une semaine contre Langnau et Berne, ça doit être un gage de confiance et surtout... Ça fait du bien. Alors si l'équipe va mieux, elle le doit aussi à plusieurs individualités. Il y en a beaucoup qu'on pourrait citer, à mon avis, dans les étoiles. J'en ai retenu trois en particulier. J'ai mis trois étoiles à Jonas Berthou, deux étoiles à Anthony Onka, une étoile à Jerry Turkulainen. Et j'ai mis quelques petits regrets de ne pas avoir davantage d'étoiles pour Vic Sopa et un petit peu pour Chacho aussi par rapport aux dernières sorties. Voilà.
Je souris parce qu'il y a deux semaines, on avait fait l'inverse. Dans une situation où on avait donné plus d'épines que d'étoiles.
C'est donc,
ça veut dire qu'il s'est passé des choses. C'est plutôt positif ces deux dernières semaines.
On a l'occasion d'en débattre. Je vous dis peut-être déjà pourquoi Jonas Berthou.
Allez, vas-y.
On y va. Un deuxième compteur du HCA avec 9 points. La confiance vient. Elle va grandissante pour lui. On a eu l'occasion de l'interroger après Berne et on voit qu'il a la banane, qu'il est bien dans ses bottes et ses patins. Ses sorties de zone, elles sont de qualité. Quand il sort le puck de la zone, il y a toujours de l'idée derrière. On voit, il lit le jeu avec une certaine attention. Il a toujours les yeux rivés vers l'offensive pour trouver la bonne passe. Il a vraiment cette quête de la sortie propre. Et puis dans les duels, dans le côté défensif, je le trouve aussi vraiment calme, serein. Il n'a pas forcément le gabarit d'un Valentin, par exemple, mais il a cette lecture du jeu, cette agressivité maligne aussi qui lui permet d'être rusé, d'obtenir des duels, de les gagner. Et puis ça, il arrive à le faire sur la durée, même si c'est son baptême du Fond National League. Et il a presque 20 minutes de temps de glace à présent par match, hein, depuis que ça mouline comme ça défensivement. Et puis, il assure sur la durée aussi, je trouve. N'oublions pas qu'il a que 25 ans, donc que c'est seulement sa première saison National League, donc une vingtaine de matchs pour lui à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il respire déjà beaucoup de sérénité et de confiance. Et puis, je crois savoir que le HCA est sur le point de le prolonger. Ce serait vraiment une des très bonnes idées de l'automne que de prolonger le bail de Jonas Berthou.
Ouais, je crois que c'est une option, mais ça risque de le faire. Ouais, tu l'as dit, hein, carrière de 20 matchs en National League, et puis il se comporte déjà comme un taulier sur la glace. Ouais, moi j'aime aussi son assurance, sa sérénité, et puis voilà quoi. On l'a vu mardi soir à Berne, deux passes décisives, hein, puis c'est tout ce qu'on demande aux défenseurs aussi, hein, cette transition rapide, là, cette fameuse première passe qui devrait permettre au HCA Joie de se mettre en bonne position en zone offensive, et puis ça a matché, quoi. Donc oui, bien sûr, quoi. Il est bluffant là pour l'instant.
Ouais, il a que 25 ans ou il a déjà 25 ans. C'est vrai que c'est peut-être aussi un avantage, hein, pour une première de saison en National League. C'est pas un jeune de plus de 18 ans. Il a prouvé en Swiss League depuis plusieurs saisons que l'année passée il était meilleur défenseur offensif, qu'il a ses qualités. Donc Ouais, et puis il joue avec Anka qui l'aide beaucoup, il le dit. Et puis, comme tu dis aussi, dans les duels, Anka, c'est un joueur très intelligent qui sert beaucoup de la force de l'adversaire, puis de son corps pour pouvoir récupérer des pucks. Et puis, je crois que Jonas Berthoud, ça inspire pas mal. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ces trois étoiles.
T'es admiratif de ce que Jonas fait, Valentin ?
Ouais, franchement, c'est la classe. Comme tu dis, première année en National League. Et puis, ouais, il est sur un club puck, il fait les bonnes passes, il fait les bons jeux au bon moment, il patine avec le puck. Et ouais, franchement, c'est vraiment, vraiment cool pour lui, pour l'équipe. Et puis, c'est vrai qu'en tout cas, ça nous aide beaucoup. Hein.
Ouais, j'ai juste une considération qui devrait être un exemple, peut-être. Le HCA Joie ne devrait pas être frileux. Puis, Jonas Berthoud peut être un exemple d'aller chercher des joueurs en Swiss League. Ça peut matcher. Je pense qu'il y a peut-être des joueurs en Swiss League.
Il y a un vrai vivier. Hein, ouais.
Oui, oui, voilà. Parfois, ça ne marche pas, mais parfois, ça marche aussi. Et c'est une prise de risque que le HCA Joie, vu sa situation et vu son rôle qu'il a en National League, doit beaucoup plus prendre. Voilà. Et Jonas Berthoud en est donc un bon exemple.
On va continuer avec les étoiles. J'en ai donné deux à Anthony Anka. Me direz-vous, on pourrait le donner trois chaque semaine. Peut-être pour justifier ces deux étoiles, on va s'imaginer... Allez, deux secondes. Un HCA 100 Anthony Anka. Ouais, d'accord, ça fait mal. Hein. C'est compliqué à imaginer. Voilà, il y a plusieurs stats qui le prouvent. Le temps de glace qu'il a, c'est gigantesque. Hein, plus de 24 minutes, je crois. Non loin des Tessinois Virtanen et Ed. Mais bref, c'est un joueur sur lequel on peut se baser. C'est le top scorer de l'équipe actuellement. 13 points pour lui, 20 matchs. Le petit hic, peut-être, c'est ce manque de réalisme dans les shoots parce qu'il a une soixantaine de tirs, je crois. C'est quasiment le joueur qui a le plus de tirs de la Ligue avec Strømøy, le joueur de Rapperswil. Il essaie beaucoup, mais il n'a pas encore vraiment marqué. Par contre, il distille beaucoup d'assists. On l'a vu encore mardi avec ce tir dévié par Vic. Mais bref, voilà. Il y a un HCA avec Anka, un HCA sans Anka. Il est capable de bonifier l'équipe. Il est capable de faire la pluie, le beau temps, à mon sens. Un joueur, je sais qu'on aime beaucoup dans ce podcast et on le répète, mais voilà. Semaine après semaine, j'ai envie de dire, il prouve le statut qu'il a au HCA et il justifie les éloges.
Julien Beugli sort de ce coin.
Oui, c'est ça, c'est ça, effectivement.
Non, mais c'est vrai qu'on reproche au HCA Joueur, on a reproché de s'être un petit peu ennuyé ces derniers temps. Il faut dire qu'on aime aussi les joueurs qui amènent de l'émotion sur la glace, qui font un petit peu le show. Et Anthony Anka, on est parfois peut-être un peu tout risqué, il prend peut-être parfois un petit peu trop de risques, mais voilà, quoi, il faut aussi ce genre, ce profil de joueur. Quoi. Et puis, il est aussi... de plus en plus mieux soutenu aussi avec des Turkulainen qui sont revenus au jeu parce qu'à un moment donné il était un petit peu seul, hein. C'était un petit peu le porte-étendard d'art du HCA Joie par moment.
Ouais, tu parles de risques, je trouve que ces risques sont peut-être un peu plus mesurés que ce qu'on a pu considérer par le passé, mais aussi je trouve que dans une équipe qui marque, à part quelques exceptions près, mais qui marque globalement très peu, cette prise de risque d'un joueur avec autant de talent, elle est vraiment tellement légitime, quoi.
Ouais, bien sûr, la prise de risque, elle doit être là, mais comme tu l'as dit, le seul truc qui lui manque finalement pour avoir trois étoiles toutes les semaines, c'est cette finition, et puis il faut qu'il trouve un peu des meilleurs shoots sur le but. Après, voilà, passeur, il est extraordinaire, patineur, il est extraordinaire. D'ailleurs, moi, je le remercie, parce qu'avec mon équipe de U14, c'est grâce à lui qu'il y a des joueurs qui veulent jouer derrière un petit peu, parce que sinon, ils veulent tous jouer en attaque. Mais c'est typiquement le joueur moderne, hein, aussi, qui amène beaucoup, qui va appuyer l'attaque, et puis... il est intelligent, il est technique, il est rapide, puis c'est beau à voir quand il est sur la glace.
On est élogieux, tu l'es aussi, Valentin.
Ouais, bah franchement, à l'heure des jouets, tout le monde pourrait croire que c'est tellement facile de jouer au hockey, quoi. C'est vraiment, c'est assez incroyable, l'heure des jouets, comme ouais, patiner, les pas, enfin tout, il est vraiment très complet. Et même, avant, t'as dit, des fois, il faisait des jeux un peu risqués, c'est quand même le premier qui est de retour à chaque fois, tellement il a ce patinage. On dirait vraiment que c'est tellement facile, en fait. Et il a cinq poumons en plus, donc... Ouais, c'est vraiment un magicien. Ouais.
Et il a encore un contrat pour la saison 26-27.
Ouais, on peut s'en réjouir, hein, c'est vrai, effectivement. Et puis on parlait de facteur X avec Anka. L'autre facteur X, peut-être, à mon sens en tout cas, c'est mon étoile, c'est Jerry Turkulainen. Parce qu'il y a aussi un HC, à mon sens, avec lui et sans lui. Hein, son retour est marquant quand même s'il n'est pas encore au sommet de son art. Mais 6 points en 8 matchs pour lui. Il bonifie qui plus est Nettinen. C'est peut-être aussi ce dont Ajo avait besoin. 5 points en 8 matchs pour Nettinen depuis le retour de Turkulainen. Il y en avait 3 en 9 matchs avant ça. Donc on voit quand même le facteur Turkulainen pour Nettinen, ça c'est indéniable. Et voilà, c'est un joueur qui, avec pas grand-chose, est capable de faire beaucoup. Il a su le prouver ces derniers matchs aussi avec des récupérations qui sont somme toute dangereuses. Il y a un petit hic encore au power play où on voit que les automatismes doivent revenir quand même. On voit aussi que les équipes se méfient particulièrement de Turkulainen, ce qui donne quand même aussi de la place, un peu plus de place aux autres, notamment depuis la ligne bleue. On a déjà pu le voir ces derniers matchs. En tout cas, pour moi, son retour est providentiel. Et puis, je pense que sa montée en puissance, peut-être que ces 10 jours encore de pause, vont peut-être lui faire du bien pour pouvoir encore accentuer cet aspect physique. Mais j'espère que cette alchimie va enfin être trouvée, qu'on puisse avoir des lignes stables. Cette régularité, elle manque actuellement, ou elle a manqué. Et là, avoir un Turkulainen et un Nettinen qui se retrouvent comme ça va, j'espère en tout cas, apporter un peu plus de sérénité et de calme dans les rotations et dans les idées du coach notamment.
Pas facile la rentrée de Turkulainen, hein, parce qu'il est arrivé à un moment où la Chargeoie était quand même un peu dans un gros creux, et puis on attendait beaucoup, beaucoup de lui, il y a une grosse pression sur les épaules. Il sort d'une grosse blessure, il n'a pas joué quasiment pendant une année. C'est compliqué de revenir. Au début, je le voyais un petit peu perdu sur la glace par moment, un peu moins précis dans sa technique puis dans son patinage. Mais on voit quand même que depuis maintenant quelques matchs, ça monte. Hein. Il fallait un peu de patience. Et puis, comme tu l'as dit, il bonifie avec lui toute sa ligne. Nettinen qui faisait parfois peine à voir sur la glace parce qu'il sait plus tellement où aller. Ben là, il sait qu'il y a son compère qui est revenu, qui va lui l'alimenter en passe dans son jardin. Et puis, il a qu'à envoyer ses immenses shoots. Et puis, rien que pour ça, l'étoile, elle est méritée.
Oui, tout à fait d'accord avec vous. Et puis maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va rester plus longtemps ? Parce que je pense que c'est une thématique qui est importante maintenant pour le Chargeois, c'est essayer de verrouiller le dossier Turkulainen au plus vite, hein, parce qu'on a compris qu'il était là et puis qu'il faisait beaucoup de bien à l'équipe. Donc je crois que c'est un dossier qui doit être priorité pour le Chargeois maintenant.
C'est clair. Après aussi, voilà, il a fait quasiment une année sans jeu, c'est énorme. Donc c'est sûr qu'en plus, comme tu l'as dit, on était vraiment dans le creux, revenir, il y avait vraiment cette pression sur les épaules. Mais bon, je trouve qu'il fait ça vraiment bien après une année, revenir et puis faire, je sais pas combien t'as dit de points en
608.
Ouais. 608, ouais. C'est quand même plus qu'honnête. Donc ouais, je pense que. Et puis, à mon avis, il va continuer à monter en puissance.
Et on va un petit peu piquer pour terminer cette chronique avec l'épine. J'ai hésité entre deux joueurs pour tout vous dire par rapport aux prestations des dernières semaines. Marco Pedretti d'un côté, Arnaud Nussbaumer de l'autre. Et voilà, on aurait pu, à mon sens, les sanctionner les deux pour différentes raisons. J'ai quand même privilégié Arnaud Nussbaumer parce que voilà, je trouve qu'il est, surtout parce qu'il est vraiment dessous de ce qu'il a pu montrer dernièrement. Il y a beaucoup, beaucoup d'hésitation à la relance. Alors certes, le travail défensif, il le fait en tout cas avec abnégation, mais voilà, on aurait clairement pu perdre Langnau et encore peut-être même plus Bern avec ses relances parfois hasardeuses. Il y a du doute dans sa tête, peut-être un peu l'esprit déjà ailleurs à Langnau en l'occurrence, vu qu'il y a signé la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est pas le Nussbaumer qu'on a pu connaître, c'est pas l'assurance tout risque, c'est pas la fiabilité qu'on a pu lui connaître non plus, et ses doutes, eh bien, dans une défense à 6, ben, ça pèse. Et puis pour l'instant, on est globalement assez bien tiré, mais voilà, cette petite épine peut-être pour sanctionner ce manque d'assurance de Nussbaumer dernièrement.
Oui, je comprends, c'est vrai, notamment le premier tiers face à Langnau était particulièrement difficile pour lui. Et puis tu parles du Nussbaumer d'avant, mais il avait aussi connu une fin de dernière saison plutôt difficile, hein, au début 2025. Donc ouais, je peux comprendre ce choix.
Ouais, je le comprends aussi, effectivement, si on le juge sur le match contre Langnau, dans les relances, c'était assez compliqué dans les premières passes. Après, voilà, il y a des phases comme ça, hein, il a un jeu aussi, un petit peu comme Jonas Berthoud, c'est qu'il est porté vers l'offensive, on attend de lui des premières passes rapides, c'est un petit gabarit qui doit aussi bouger, et puis, il y a peut-être aussi un manque de confiance dans cette période-là. Je pense pas vraiment qu'il ait la tête encore ailleurs parce que il y a encore longtemps avant de se retrouver à Langnau. Et puis, on peut l'entendre. Mais moi, je l'aurais plutôt mis vers l'attaque, les épines, parce que moi, j'ai deux. Quand tu parlais de deux hésitations, moi, j'ai deux joueurs qu'on retrouve en bas du classement des compteurs du Chargeois, qui ont pourtant joué quasiment tous les matchs cette année. Et puis, vu qu'on a maintenant signé des gars comme Cormier, qu'on a un retour comme Cavalleri, qu'on aura peut-être, j'espère, un Jurassien avec Lilian Garessu qui va revenir, un peu plus de rotation dans ces Suisses en attaque. Et puis, moi, là, l'épine, je l'aurais plutôt mis en attaque.
Mais cite-les. Donc, tu parles de Marco Pedretti et Emils Vekalkin, c'est ça?
On va les citer, ouais. Mais malheureusement, moi, Marco, j'ai pas envie de le citer parce que c'est un ajoulot, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime beaucoup, mais j'attends vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus de lui. Vekalkin, moi, je le dis, je comprends pas pourquoi il joue depuis tant de matchs au Chajoie. Je pense que si on fait jouer un U21 de chez nous, il va pas jouer pire que ça. Mais voilà, bon, c'est mon avis, je l'assume. J'aime pas ces joueurs en ce moment.
La bande du jeudi.
Une question qu'on va se poser dans ce podcast, c'est l'avenir de Frédéric Gauthier sous contrat jusqu'à mi-novembre. Donc, sera-t-il là ou non à la reprise du HC Ajoie? C'est un petit peu la question. Est-ce qu'il faut le garder ou non? C'est ce qu'on va trancher entre nous trois. Peut-être honneur à toi, Yann, ou à toi, Rafi.
Bah, je vais bien commencer. C'est vrai que Frédéric Gauthier, c'était un peu le choix de facilité au moment où on l'a signé. On connaissait déjà le bonhomme, lui connaissait déjà la maison. Il était disponible, on l'a signé. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit vraiment le profil dont le Chajoie a le plus besoin pour le reste de la saison. Je crois qu'au centre, on est pas mal armé avec des joueurs de centre comme De Vos, comme Belmar dans les deux premières lignes. Et puis, on a Jérémy Vic qui est juste incroyable à chaque match. Il fait un job juste extraordinaire. Et puis, il mérite pleinement sa place sur le troisième trio de Suisse. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire de Frédéric Gauthier là-dedans, quoi? Et puis moi, je verrais plus aller chercher peut-être un ailier un peu vigous qui amène de la vitesse sur les ailes. Et puis donc moi, personnellement, je dirais merci Frédéric pour la pige, mais bonne chance pour le reste de la saison.
Oui, il faut déjà se rappeler le postulat de départ, c'est qu'on allait chercher Frédéric Gauthier un centre à un moment où on avait plutôt besoin d'un ailier avec la blessure de Jiri Turkulainen et de Johnny aussi, juste avant le début de saison. Et puis, il a eu cette première partie de saison qui est plutôt difficile, plutôt éteint. Voilà, on le voudrait un peu plus dans les bandes, dans le slow, dans des endroits où il devrait faire la différence. Et puis, on le sent dans ce côté-là un petit peu plus éteint. Après, moi, je regarde à plus long terme. C'est que le HC Ajoie a déjà 8 licences d'étrangers sur un quota de 10. C'est une question qui doit peser aussi, sachant qu'il y a de grandes probabilités qu'Ajoie joue ou devrait jouer son avenir au mois de mars et avril. Est-ce qu'on peut déjà maintenant se passer d'une 8e licence d'étrangers si on ne va pas en chercher une 9e? C'est ça, quoi. Donc, c'est une réflexion à prendre, mais le club devra la prendre parce que son contrat court jusqu'à mi-novembre. Donc, vendredi, c'est le 31 octobre. Après, il y aura la pause. C'est pas dit qu'il soit là donc, pour la reprise derrière.
Il y a les questions de nombre de licences que je partage aussi. Et puis, vous le comprendrez, je suis de votre avis, mais il y a aussi des aspects financiers. Mine de rien, si on veut un 8e étranger, à mon sens, il faut qu'il soit meilleur que ça et puis davantage prolifique. Et je partage totalement l'avis qu'on a deux centres étrangers qui tiennent vraiment la route, qui sont identifiés au club et puis qui ont une certaine stabilité. On a un troisième qui fait hyper bien le travail, effectivement, avec Jérémy Vic, qui est ultra monté en puissance à ce poste-là, qui gagne énormément d'engagement, qui est présent, qui a du métier, qui a de la posture. Enfin, voilà, il est presque inamovible. Et puis, moi, ce qui me manque aussi, perso, c'est plutôt un ailier capable de faire la différence, de marquer des goals. Et justement, si on veut augmenter l'armada offensive du HC Ajoie, pour moi, il faut trouver cette perle rare-là. Et puis, on ne peut pas se permettre d'avoir un 8e étranger qu'on paye avec un salaire d'étranger quand même. On a des tribunes qui ne sont pas autant garnies que ce qu'on espérait. On ne va pas dire de là qu'on est en train de perdre beaucoup d'argent au HC, on n'en est pas là. Mais quand même, pour moi, le 8e étranger, avec Frédéric Gauthier, c'est un trop grand luxe. Il faudrait vraiment, si on veut maintenir un quota de mercenaires à 8, il faudrait vraiment pouvoir trouver la perle rare comme on avait pu la trouver avec notamment Anthony Onka à l'époque, quoi.
Après, toi, tu parles de 8e étranger, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour le coaching staff, il est dans les 6, hein, c'est-à-dire qu'il a été plus souvent titulaire que d'autres. Donc, ils ont une perception qui est pour l'instant différente que la nôtre.
Comme j'ai dit avant, hein, les centres, si on pense justement à Lino Garesu qui va revenir, Roman Engi, on a Schlepfer, qu'on est obligé de maintenant faire jouer en licence B à Bâle pour qu'ils aient du temps de jeu. Ouais, on a pléthore de joueurs au centre, et puis de l'animation offensive de Chajoie. Encore une fois, je vois plus un joueur rapide sur les ailes qu'un gros gabarit au centre.
Dans l'œil de la vouivre.
Ok, alors on va finir cette bande du jeudi avec le quiz, avec les questions de culture hockeyistique en rapport avec les adversaires du HA Joie, en partie sur notre invité et d'autres thèmes d'actualité. Donc je vais commencer tout de suite avec ma première question. Donc vendredi, le HA Joie reçoit Ambry. Nous allons voir si vous avez préparé la rencontre, mes chers amis.
À fond.
Actuellement, Ambry a le deuxième meilleur boxplay de la Ligue. Mais avec quel pourcentage?
Ça, c'est voilà. Des questions, ouais.
Ça, c'est dur quand même, parce que trouver des chiffres comme ça.
Ouais, trouver des chiffres, c'est compliqué, ouais.
Bah, tu nous avais sorti les pourcentages d'arrêt.
Moi, je les aime bien aussi, c'est vrai.
Valentin, à toi l'honneur, évidemment.
Moi, il me semble 88.
Alors, 88, c'est le premier de la classe. C'est Fribourg qui est premier avec 88.
86, alors.
Ah, ils sont un petit 83. Peu en dessous, quand même. Ouais, ils sont à 83,93. Et puis Ajoie, ben, s'en sort super bien cette partie-là. Hein. Le boxplay fonctionne super bien.
Quatrième
de la ligue. On était sixième avant le match d'hier. On est monté le match de mardi. Et puis on est monté à la quatrième place avec 80,77%. Ouais. Puis
ça, c'est uniquement un boxplay. Ça, hop, tu gagnes deux places.
Ouais, parce qu'on a marqué des buts à Berne, qui eux est descendu puis qu'on a pris nos places de sixième. Deuxième question, on va rester avec notre adversaire de vendredi. Parmi les joueurs étrangers des Bianco Blue, un seul avant le derby de mardi était en positif dans la ratio plus-minus. Qui est ce joueur?
Moi, je dirais un défenseur.
Non, c'est un attaquant. Il était chez l'adversaire des Bianco Blue l'année passée.
Michael Joly.
Effectivement, c'est le seul qui avait un différentiel à +1. Avant le match de mardi, mais après le derby contre Lugano, il est passé à -2. Donc, tous les étrangers de la Légion Bianco Blue sont en négatif. On a leur Corman Di Domenico avec -17, Tom Hyde avec -16, Petan et Vertanen à -13, Tierney à -10, et puis Fermanton à -8. C'est les six derniers du classement des Bianco Blue en plus-minus. Alors, je veux bien qu'ils aient beaucoup de temps de jeu, mais il y a peut-être un chemin à voir contre qui marquer vendredi.
Bon, la situation, oui, est un peu identique aussi au HCA Joie, où les mercenaires sont aussi passablement
très utilisés. J'ai regardé avant de poser la question, justement, mais c'est quand même un petit peu plus nuancé du côté du HCA Joie. Après, ça montre quand même aussi que quand la locomotive tousse, le train, il va moins vite. Hein, donc, le HCA Joie aussi. Hein, on a le retour, justement, des buts de Nettinen. Et puis, ça va tirer aussi l'équipe vers l'avant. Puis, on voit que quand eux ne vont pas bien, le reste de l'équipe, même si on a beaucoup de Suisses qui marquent cette année, ça va moins bien. Troisième question. Pour se remonter le moral, puis en vue d'une éventuelle fin de saison qui pourrait arriver au HCA Joie, on a ces fameux play-outs. Et puis Ambry, c'est un spécialiste des play-outs. Combien de fois depuis les années 2000, Ambry a dû passer par la case play-out? Donc en 25 saisons.
10.
Moi, je dirais de manière complètement au bol, je dirais une fois sur deux, donc 12.
Pas loin, c'est 13. Donc quand on est impatient avec la Chargeois et puis qu'on entend toujours se dire que la Chargeois passe à la place en National League parce qu'on fait les play-outs, faut se rappeler qu'il y a des équipes quand même comme Ambry qui ont fait 13 fois les play-outs en 25 saisons. Puis la dernière fois pour eux, c'était en 2020. Cette année, ça sera certainement peut-être avec eux que le HA Joie va se battre pour cette fameuse 14e place.
Tout d'abord, on est en cours fin octobre là.
Ouais, mais pour l'instant, ça se dessine comme ça quand même dans le classement. Donc, on va voir ce qui va arriver. Quatrième question. La pause internationale oblige, le HA Joie n'a pas d'autres adversaires prochainement. Donc, je vais vous poser une question en rapport avec l'équipe suisse. Actuellement, coach en chef, Patrick Fischer, a reçu un ultimatum de la part de Sacha Weibel, le chef des équipes nationales, pour se fixer sur son avenir. Va-t-il signer ou aller vers d'autres aventures? La question, c'est depuis quand le coach le plus médaillé de la Nati est-il en place? Si vous avez une idée.
Plus de 10 ans? Une dizaine d'années, mais un peu plus de 10 ans?
Une dizaine d'années, ouais.
2013?
2015. 2015. Donc ça fait quand même maintenant 10 ans que Patrick Fischer dirige la Nati, plutôt avec succès. Et puis il y a un gros rendez-vous qui va l'attendre en février en Italie.
Un double rendez-vous, parce qu'on aura les mondiaux en Suisse derrière. Hein.
Effectivement, juste après, c'est juste. Enfin, la cinquième question qui vous concerne. Malgré les défaites et le peu de spectacles parfois, le public jurassien reste relativement fidèle à ses couleurs. Quelle est actuellement la moyenne de spectateurs sur les 10 premiers matchs à domicile ?
Valentin ?
Je dirais, je sais pas, 3200 ?
T'es pessimiste quand même.
Ouais, moi je crois qu'on est à 4, entre 4000 et 4100, me semble-t-il.
Ouais, effectivement, c'est bien, Rafi, pas mal. On est à 4055 spectateurs de moyenne. Donc bravo les Anjoulots de se supporter encore puis de venir en, je trouve, en nombre à la patinoire. Et puis je pense que les résultats de ces derniers temps vont vous encourager à venir encore plus nombreux à la Raiffeisen Arena.
Mais c'est quand même une moyenne en baisse par rapport à la saison passée. Hein.
Ouais, comme l'a dit Michel avant, c'est vrai qu'on est en baisse et puis on est en octobre, donc on a encore le temps de faire remonter la moyenne. On compte sur vous, Valentin, pour gagner chez les matchs, puis enchaîner, puis faire revenir le monde à la patinoire.
C'est clair.
Enfin, on va passer, je vais vous donner le gagnant de la dernière question de la bande du jeudi. C'est Guillaume Maury de Rosmaison qui a donné la bonne réponse. Il va recevoir prochainement le goodies en estampillé bande du jeudi. La question était de savoir dans quel club joue Sandro Zurkirchen actuellement. Et la réponse était Berne, l'adversaire de mardi soir. La question pour les fans du HAJOA qui nous écoutent, elle porte sur notre invité Valentin Pilet. Il a marqué un but pour le moment sous les couleurs Anjoulottes. Il aurait pu marquer un deuxième vendredi.
On en revient.
Donc le seul but actuellement de Valentin, on va vous demander contre quelle équipe c'était. Donc à vos recherches sur Internet ou dans vos souvenirs. Et les réponses, on les attend directement sur la page consacrée à la bande du jeudi sur le site Internet d'RFJ où vous retrouverez le formulaire réponse. Ou vous pouvez envoyer un mail à bdj@lqj.ch, là aussi avec la réponse et vos coordonnées.
Bien, merci Yann pour cette clôture. Merci aussi à toi, Valentin, d'avoir fait le déplacement.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci Yann, donc merci Rafi aussi. On se revoit très bientôt dans la prochaine bande du jeudi.
Oui, avec, j'espère, des aussi bons résultats que ces dernières fois, puis qu'on puisse oublier cette période de crise, puis que le HAJOA recolle au classement.
Oui, la prochaine fois, c'est donc dans 2 semaines, c'est ça ?
C'est dans 2 semaines, oui. D'ici là, on peut souhaiter un bon match contre Ambry et une très bonne
trêve
internationale.
On n'aura pas beaucoup à voir au classement, parce qu'il n'y aura pas eu beaucoup de matchs non plus.
La bande du jeudi.